Tranche de vie, petit voyage à travers nos existences. Auditeurs de Tranche de vie, dans le département du Var, le joli village de Signes s'étire le long de la retombée du massif de la Sainte-Baume sur une jolie plaine. De l'autre côté de cette plaine, en face du village de Signes, un massif de montagne retombe sur la direction de Toulon. Dans le village de Signes, il y a une confiserie très ancienne qui s'est spécialisée essentiellement dans la fabrication du nougat. Et ceci depuis 152 ans. Puisque le fondateur de cette entreprise, M. Baptistin Fouque, a créé cette entreprise en 1864. Le descendant qui aujourd'hui dirige cette entreprise a accepté de nous parler de son entreprise et de son activité. M. Fouque, bonjour, merci d'avoir accepté de parler à nos auditeurs de votre belle activité de fabricant de nougat.
Bonjour, c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens et d'avoir à parler de mon activité.
Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous retracer l'histoire de la famille Fouque et de son activité de nougatier ?
Alors, bien sûr. Donc, tout commence en 1864, quand mon arrière-arrière-arrière-grand-père s'installe à Signes et ouvre une épicerie fine. Alors, à l'origine, le concept d'épicerie fine était plus vague que ça, parce qu'ils étaient à la fois confiseurs, ils faisaient des marrons glacés, des fruits confits, du nougat, ils étaient aussi licoristes, ils préparaient des liqueurs, trajets, pièces montées, donc de la pâtisserie. Ils avaient de multiples activités. Et au fil des générations, à l'heure actuelle, moi, il ne me reste plus que deux spécialités de la maison, à savoir le nougat, traditionnel de Provence, et des sirops.
Mais alors, pourquoi Signes ? À cause du marché marseillais, qui est quand même proche, ou toulonnais ?
Alors non, parce que historiquement, Signes était situé sur la route du sel des Romains. Donc c'était un lieu de passage où on prélevait beaucoup de taxes. C'était une plaine après une montée difficile en venant de Toulon ou en venant de Solliès-Pont. Donc c'était une halte appréciée par les gens. Donc il y avait beaucoup d'activités. Le village était bien plus peuplé et animé qu'à l'heure actuelle. Et à l'époque, les gens n'étaient pas mobiles. Ils n'avaient pas de voiture. Donc quand ils arrivaient à faire 5, 8, 10 km dans la journée, c'était le maximum. Donc il fallait que le village subvienne aux besoins et de tous les habitants. Donc il y avait tous les corps de métier, et c'est pour ça que mon arrière-arrière-grand-père avait son épicerie fine.
Est-ce que le village lui-même a tendance à se développer, ou au contraire à rétrécir du point de vue de sa population, de son importance ?
Alors le village a beaucoup réduit dans les années 1900-1930, et on commence à avoir de nouvelles populations, mais qui n'habitent plus le centre du village. Ils habitent les extérieurs parce qu'ils préfèrent avoir une villa avec un peu de terrain, alors que les anciennes maisons du village, c'est que des maisons avec des étages, des escaliers. Donc ça ne correspond plus tellement à la volonté de vie des gens.
Et puis aussi, peut-être aussi, à une population qui a vieilli et qui a... peut-être recherche peut-être un confort un peu plus grand. Ce décor étant posé, quelles sont les matières premières qui rentrent dans la fabrication du nougat, dont on sait que c'est une friandise d'origine très ancienne ?
Alors, les origines du nougat, on retrouve des traces des recettes de nougat noir chez les Romains ou chez les Grecs. Mais à l'heure actuelle, on fabrique du nougat avec principalement du miel et des amandes. Or, les Romains ne connaissaient pas les amandes. Donc, des Romains jusqu'en 1864, on faisait uniquement du nougat noir, avec un mélange de miel et de noix.
Ah, en incluant des noix à la place des amandes. Les amandes, Le miel, c'était une production locale traditionnelle, hein, de longue date. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qui rentrent dans la composition des nougats, blancs ou noirs, puisqu'on vient d'apprendre qu'il y avait du nougat blanc et du nougat noir?
Alors, il y a deux recettes différentes. Donc, le nougat noir, nous, on continue à le faire traditionnellement. Donc, c'est 50% d'amandes, 50% de miel. On n'ajoute pas de sucre, on n'ajoute rien d'autre, à part du miel et des amandes. Le nougat blanc, c'est une recette un peu plus compliquée puisque ça ressemble à un soufflé avec des blancs d'œufs, du sucre qui viennent aider le miel, qui viennent aérer le miel. Le blanc d'œuf et le sucre permettent de faire un soufflé à base de miel et après dans lequel on incorpore à ce moment-là des amandes. Oui.
Alors, j'ai vu aussi que vous incorporiez d'autres produits que les amandes et en particulier les pistaches. Alors, est-ce que les pistaches sont produites localement aussi?
Alors, non. Les pistaches sont produites au Moyen-Orient. Il y a deux pays qui produisent des... Enfin, il y en a trois. Il y a l'Iran, la Turquie et la Sicile qui produisent des pistaches. Et les arbres qui produisent les pistaches, souvent, ont une alternance. Donc, on a souvent... une année, ça provient d'Iran, une année, ça provient de Turquie. Ça bascule souvent comme ça.
Je crois que l'Iran est devenu le premier producteur de pistaches à l'heure actuelle. Alors, cette préparation, elle dure combien de temps?
Alors, la durée de la préparation change en fonction du nougat blanc ou du nougat noir. Le nougat noir, le type de recette, ça ressemble plus à un caramel ou à une confiture. C'est-à-dire, c'est du miel qu'on fait bouillir. Une fois que le miel bout, on rajoute les amandes, on cuit le tout dans un grand chaudron en cuivre, et une fois que les amandes rejoignent le miel bouillant, on le brasse à la spatule sans s'arrêter pendant une vingtaine de minutes. Donc le nougat noir, on arrive à fabriquer en 30 minutes un chaudron d'une trentaine de kilos de nougat. Le nougat blanc, la recette prend plus de temps parce que c'est une cuisson lente à basse température. Ça se passe dans un grand malaxeur au bain-marie, toujours avec un chaudron en cuivre. On démarre à 5 heures du matin en mettant un mélange de miel, de lavande et de toute fleur dans le chaudron. On ajoute des blancs d'œufs battus en neige et après on fait monter la température du bain-marie et on va continuer à maintenir l'ébullition du bain-marie tout en brassant le mélange pendant 5 heures. Au bout de 5 heures, on a réussi à faire notre émulsion, c'est-à-dire que le miel a attrapé des bulles d'air, ce qui donne la couleur du nougat blanc. Voilà, le blanc du nougat blanc, c'est uniquement l'aération du miel. Après, on va ajouter un sucre cuit pour faire maintenir ces bulles d'air. C'est-à-dire que quand le nougat refroidisse, les bulles d'air diminuent et qu'on ait quelque chose qui réduise en volume. Et ensuite, on ajoute soit des amandes naturelles avec la petite peau, soit des amandes grillées au four et des pistaches. Mais voilà, pour faire une machine de nougat blanc, pour faire à peu près 40 kg de nougat blanc, il nous faut à peu près 6 heures de fabrication. Ce que j'appelle une machine, c'est vraiment la phase de cuisson dans le chaudron. Parce que après la cuisson, il y a une phase de refroidissement, puis après on va découper le nougat, après il va falloir l'emballer. Donc au bout de 5 heures, c'est pas fini. Ça fait que comment si on a fait la moitié du travail, en fait. Hein.
Alors justement, à quel, votre nougat, il a quelle consistance quand vous le moulez, quand vous le façonnez en barre, comme on l'achète après?
Alors, quand on le moule, c'est assez liquide, mais pas trop. Par contre, après, il faut le laisser refroidir parce qu'il faut qu'il ait une certaine dureté pour pouvoir être coupé. Et après... Le nougat blanc, il faut encore le laisser refroidir encore une nuit parce que on coupe les nougats tièdes, sinon c'est trop dur, on n'arrive pas à les couper. Et à la température de coupe, le nougat blanc est difficilement manipulable sans être abîmé. On fait des traces de doigts, on tord des barres. Enfin, on peut pas passer à l'étape suivante de l'emballage et du stockage parce que les barres se déforment et s'abîment. Donc en fait, on est obligé de remettre une fois coupées dans des moules pour qu'elle soit tenue sur tous les côtés et qu'elle finisse de sécher, de refroidir. Et donc le nougat blanc, il est fabriqué le matin, coupé l'après-midi, mis en papier, emballé, uniquement le lendemain.
Alors, il y a une chose qui est très caractéristique aussi dans vos productions, puis dans les productions d'autres régions aussi de nougat, c'est cet emballage dans le papier azim. Alors, est-ce que ça, c'est destiné justement à permettre la manipulation plus facilement?
Alors, le papier azim, il est surtout là pour, permettre d'arriver à démouler. Parce que le nougat, c'est une base de miel et le miel, c'est assez collant. Même quand on le fait cuire, ça reste très collant. Si on ne met rien au fond des moules, on ne démoule pas. Et en fait, beaucoup de gens pensent qu'on met du papier sulfurisé, mais le papier sulfurisé ne se mange pas. Et on ne pourrait pas le démouler, on ne pourrait pas le décoller du nougat. Donc, voilà. Donc le papier azim sert à ça.
D'accord, le nougat, il est mis dans les moules qui sont déjà tapissés de papier azim.
Tout à fait, les moules sont déjà tapissés de papier azim et on moule à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a du papier azim sur toutes les faces du nougat.
Alors après, il y a l'emballage. Alors sur l'emballage, j'ai lu des choses tout à fait laudatives sur la dextérité des emballeuses traditionnelles. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce que vos nougats sont encore emballés à la main ou est-ce qu'ils sont emballés à la machine?
Alors nous, toutes les barres de nougat qu'on fabrique sont emballées à la main. Donc ça demande beaucoup de personnel. On a 6 femmes qui travaillent quasiment uniquement à l'emballage, ça les occupe une bonne partie de la journée, et sachant d'autant plus qu'on est obligé de mettre 2 papiers d'emballage sur chaque barre de nougat. Il y a toujours un premier papier d'emballage qui a une face d'aluminium, qui permet de faire une barrière à l'humidité et à l'air, pour préserver justement le nougat, parce que sinon le miel qui a le plus dedans peut jouer, peut prendre de l'humidité ou peut. Il faut vraiment le protéger, ce nougat. Donc le papier d'aluminium sert à ça. Et après, on a une autre feuille de papier sur laquelle il y a les marquages, les ingrédients, la marque, tout ce qu'il faut.
Alors maintenant, on va aborder un autre aspect de votre activité qui est tout à fait surprenant, c'est la saisonnalité, le caractère saisonnier de votre activité. Quand on entre dans le village de Signes, on voit des pancartes qui annoncent la présence de votre entreprise et on nous dit que votre activité, elle s'exerce entre le mois de septembre et le mois de décembre, avec même des dates très précises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que ça veut dire que, en dehors de ces dates-là, vous avez gagné suffisamment votre vie pour aller vous installer aux Seychelles et faire autre chose?
Alors, non, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que en Provence, le nougat, c'est une part importante des fêtes de fin d'année, de Noël. C'est-à-dire qu'on doit manger du nougat une seule fois, le soir de Noël, au sein des 13 desserts. C'est-à-dire, sur la table de Noël, vous avez 13 desserts. J'en oublie toujours. Si je n'ai pas mon petit papier, j'en oublie. Mais c'est des amandes, des noix, des noisettes, des fruits secs, dont les dattes, les figues, les abricots. Après, vous avez des fruits frais, la pomme, l'orange, donc le nougat blanc, le nougat noir, la pomme à huile, le raisin, et j'ai oublié, je ne sais pas quoi, j'oublie toujours les mêmes de toute façon. Il faudrait que je prenne mon petit papier. Donc, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-père, quand il a commencé, il faisait du nougat au sein des gâteaux ou confiseries traditionnelles. Le colombier en février, la galette des rois en début janvier, etc. Et le nougat fin d'année. Nous, il ne nous reste plus que ça. Donc, on produit toujours dans ce respect de la tradition. C'est-à-dire qu'on va commencer à fabriquer mi-septembre, quand on reçoit les miels et les amandes de l'année, puisque les récoltes de miel et d'amandes se font fin août. Et on va fabriquer jusqu'au 20 décembre. Le 24 décembre, on aura vendu tout notre nougat et on va être fermé. C'est-à-dire qu'après le 24 décembre, chez nous, il n'y a pas de nougat. On ne vend plus de nougat. Il va falloir attendre le mois de janvier, de septembre de l'année suivante.
Mais ça, ça n'a aucune relation avec la conservation du nougat ou avec, le caractère périssable de votre production? Ou est-ce que ça veut dire que votre clientèle, c'est essentiellement une clientèle d'origine provençale qui respecte à la lettre la tradition des 13 desserts et du nougat qu'on consomme une fois dans l'année?
Alors non, on a une clientèle diverse et variée, mais c'est vrai qu'on aime bien cette idée de saisonnalité, d'autant que On a une autre spécialité, c'est que notre particularité, c'est qu'on fabrique avec une recette qui a 152 ans, qui n'a pas évolué depuis la création de la boutique et depuis son élaboration. La recette, elle va avec la machine de nougat blanc. Donc les deux recettes de nougat blanc et de nougat noir sont les mêmes, n'ont pas changé. La machine pour fabriquer le nougat blanc, le malaxeur au bain-marie, c'est toujours le même. Et en fait, on ne peut pas fabriquer nos recettes dans des mois qui sont trop humides, genre au printemps, ou trop chauds, juillet-août. Quand il fait 30 degrés à l'extérieur ou 35 degrés à l'extérieur, on n'arrive pas à cuire nos nougats. Donc, pour arriver à fabriquer toute l'année, si on voulait le faire, il faudrait qu'on modifie ces recettes-là, qu'on enlève du miel, parce que c'est le miel qui joue avec l'humidité ou la chaleur, et qu'on le remplace par du sucre ou du glucose. Et c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. On veut rester dans cet esprit de tradition. Et puis c'est un peu comme tout. Les tomates, vous n'en mangez pas toute l'année, les fraises non plus, ou alors vous ne mangez pas de la bonne qualité. Donc on préfère frustrer les gens à un moment pour qu'ils reviennent. Et on assiste des fois en début de saison à des gens qui n'arrivent pas à attendre de repartir, de rentrer chez eux, qui ouvrent une barre comme ça, qui croquent et puis qui ont ce sentiment de libération, de bien-être, de manque comblé. Et ça, c'est frustré, c'est un peu aussi, c'est bien.
Alors, ce que vous venez d'évoquer, là, à savoir, je veux dire, cette autodiscipline que tout le monde devrait avoir en disant, voilà, je vis dans un pays où les tomates sont consommées en été, et puis tel autre légume ou tel autre fruit plus tard ou plus tôt, ça m'amène évidemment à vous poser la question de la concurrence. Est-ce qu'il y a dans le monde des gens qui ont essayé de vous imiter et qui essaient de pénétrer votre marché ?
Alors, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas des gens qui se créent, qui essayent. C'est que, donc on l'a dit, le nougat, c'est une histoire de tradition. On a dit aussi que les gens bougeaient pas, ils étaient pas très mobiles parce qu'il y avait pas de voiture. Hein. Donc ça veut dire que dans tous les villages, en Provence avant, vous aviez quelqu'un qui fabriquait du nougat. Donc Provence, Drôme, tout ça. Et en fait, Il y a quand même beaucoup de villages dans lesquels il y a eu une fabrique qui a survécu. Donc on se retrouve maintenant avec, pas des concurrents, mais des confrères tout autour. Ou Androm, Montélimar, parce que Montélimar est très connu parce que c'est à Montélimar que les recettes de nougat blanc ont été créées. Et le nougat blanc de Montélimar, ça a été un peu une révolution dans la confiserie, et c'est pour ça qu'on connaît le nougat blanc de Montélimar. Donc il reste plein d'acteurs et plein de maisons anciennes qui fabriquent du nougat, qui ont décidé de prendre le virage de la fabrication à l'année, et donc qui ont modifié leurs recettes traditionnelles, artisanales d'hiver, pour en faire des recettes qui fonctionnent toute l'année. Après, c'est d'autres produits, c'est encore du nougat, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait, mais pas forcément. Donc quand vous me demandez si des gens essayent de m'imiter, non, je pense que tout le monde fait sa recette et laisse vivre les autres, parce que en fait, moi j'ai pas de concurrents, j'ai que des confrères.
Vous êtes quand même un petit peu, vous, l'astérix du nougat blanc, hein. Vous êtes là dans le... Et Signe, c'est le village gaulois de la tradition, enfin du nougat de tradition, on peut peut-être dire les choses comme ça. Parce que quand on passe à Montélimar, évidemment, on est noyé sous les publicités de nougat, et que ce soit l'hiver, l'été ou le printemps, il y a toujours du nougat à acheter.
Oui, enfin, moi je ne le vois pas comme ça. Hein. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on pourrait se dire qu'on est le village gaulois qui résiste. Mais moi je. Je continue la tradition et les recettes de mon arrière-arrière-grand-père. Je le fais plutôt dans ce devoir de mémoire et devoir de. Je me bats souvent, toutes les années, pour éviter de rien changer.
En tout cas, moi qui suis un consommateur saisonnier de nougat, je peux témoigner de ce que la tradition que vous respectez donne des résultats quand même. Très, très appréciable, très goûteux par rapport aux autres productions. Vous venez de parler de deux choses importantes. Les normes, en particulier les normes européennes, Et puis, le caractère quand même assez difficile à respecter de cette production pour essayer d'assurer, enfin, pour continuer à assurer cette tradition. Est-ce que les normes européennes vous causent des difficultés et d'autre part, est-ce que vous avez du mal à vous fournir de certaines de certains ingrédients qui sont à la base de votre production, et je pense en particulier au miel dont tout le monde dit à l'heure actuelle qu'il est menacé dans sa survie par la mortalité des abeilles, par le déclin des industries apicoles.
Alors, il y a beaucoup de produits ou de productions qui ont été arrêtés pour des raisons X ou Y en France. Par exemple, le papier Azim. Je sais que mon grand-père se servait à Marseille, qu'il y avait plusieurs fabriques de papier Azim à Marseille. Elles ont toutes fermé, donc il a fallu aller chercher ça dans les Pays-Bas, par exemple. Donc, après, quand on ne trouve plus en France, il faut aller chercher un peu ailleurs. Les amandiers de Provence, pareil aussi, ont tous gelé en 56. Il faut 7 ans avant qu'un amandier produise après qu'il ait été planté, donc les gens n'ont pas pu en revivre. Donc aussi, ça aussi, il a fallu aller chercher un peu ailleurs. Bien que maintenant, on recommence à avoir de l'amande en Provence, donc peut-être que dans 10 ou 15 ans, il y aura assez de production pour qu'on reprenne des nougats avec des amandes locales. Alors le miel, nous on travaille depuis à peu près 30-35 ans avec les mêmes apiculteurs. On a plusieurs types de miel. On a du miel de lavande, du miel de toute fleur. Alors, le miel de lavande, il est produit sur le plateau de Valensole, qui est une grande plaine juste en dessous de Gap et des premiers contreforts des Alpes. Et les miels de toute fleur, c'est des miels de pâturage d'altitude. Il y a plusieurs types de problèmes au niveau du miel et des abeilles et des apiculteurs, et on ne les a pas forcément tous. Il y a des problèmes liés à des pesticides, par exemple de la mortalité liée à des pesticides, mais ça, vous le retrouvez pour des apiculteurs qui font des miels issus, par exemple, de pommiers, ou qui sont à côté de grosses récoltes de colza ou de tournesol. Parce que ces grosses récoltes, ces grandes étendues, elles sont souvent traitées. Voilà. C'est quelque chose que vous n'avez pas, par exemple, sur le miel de lavande, parce que les lavandes ne sont pas traitées. Ou dans les miels de pâturage d'altitude, les pâturages d'altitude ne sont pas traités non plus. Mais ça fait 2 ans que le principal problème des apiculteurs, c'est plutôt le climat. Et un printemps un peu difficile, donc l'an dernier, il a plu assez tard. Donc, et cette année, il n'a pas plu. Et en plus de ne pas pleuvoir, il y a eu un manque d'écart de température entre le jour et la nuit. Donc les fleurs et les plantes ont manqué de rosée. Et donc n'ont pas développé le niveau de pollen et de nectar qu'il fallait pour les abeilles. Donc les apiculteurs ont souffert pour ça, cette année. Mais bon, comme ça fait 30 ans ou 35 ans qu'on travaille avec eux, ils ont tendance à nous privilégier par rapport à d'autres clients un peu plus récents. Donc on arrive toujours à avoir ce qu'on veut.
Et sur les réglementations concernant vos productions, est-ce que ça vous cause des difficultés ou des problèmes à surmonter, puisque tous les producteurs se plaignent justement de l'empilement des réglementations?
Alors nous, oui, l'empilement des réglementations est un peu difficile à suivre ou même à appréhender, parce que je suis tout seul, c'est moi qui fais toute la gestion administrative. Donc il y a déjà un manque d'informations pour aller chercher, pour savoir qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui doit être appliqué, qu'est-ce qui va être pour les confiseurs ou qu'est-ce qui est pour d'autres types de corps de métier. Ensuite, vous avez beaucoup de normes qui demandent soit un service qualité, donc des gens qui s'occupent que de ça, qui font des analyses parce qu'il faut savoir le pourcentage de gras, de sucre, de machin. Enfin, bon, y a beaucoup de, on demande beaucoup, de plus en plus de travail et de faire des choses qui, même s'ils ont un intérêt pour le consommateur, et encore il faudrait que le consommateur comprenne tout ce qu'on veut lui rajouter sur le... qui pour moi n'ont pas forcément d'intérêt, mais après nous on a 152 ans, on est une maison sérieuse, on n'est pas là pour escroquer les gens, on est là pour leur faire plaisir pour Noël, pour qu'ils s'éclatent avec un bon produit et qui se régale les papilles.
Ces paroles sont pleines de sagesse, mais elles montrent aussi toute la difficulté de votre travail. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la dimension de votre entreprise, qui reste une entreprise familiale? Vous avez parlé tout à l'heure du nombre d'emballeuses que vous employez. Combien de personnes employez-vous et comment pouvez-vous concilier le fonctionnement de votre entreprise et l'emploi d'un certain nombre de personnel avec la saisonnalité de votre activité?
Alors, on n'emploie que du personnel saisonnier. On emploie à peu près 5 ou 6 femmes à l'emballage, donc préparation de commandes, emballage, et on emploie 2 hommes à l'atelier. Et tous sont des saisonniers. La plupart reviennent d'une année sur l'autre parce qu'ils ont une activité complémentaire, parce qu'ils ont réussi à séparer leur activité d'hiver et d'été pour venir avec nous. Le seul qui soit à l'année, c'est moi. Et une fois qu'on a fini de fabriquer, c'est-à-dire à partir de fin décembre, une fois qu'on a passé les fêtes de Noël, moi, mon travail, ça va être la préparation de l'année suivante. C'est-à-dire voir les réparations qu'il y a à faire sur ces vieilles machines, parce que je ne peux pas appeler un SAV, je n'ai pas un numéro qui me répond, et quelqu'un qui arrive en 2 heures pour me réparer quelque chose. Donc, il va falloir trouver un ferronnier, un chaudronnier, des vieux métiers qui se perdent, ça prend du temps. Il faut s'occuper de tous les emballages, d'aller voir un peu les apiculteurs pour savoir où ils vont mettre leur ruche, qu'est-ce qu'on va avoir comme miel. Voilà. Il y a beaucoup de travail comme ça, mais...
Mais malgré tout, tout en employant du personnel saisonnier, j'imagine qu'il y a des gens qui vivent dans la région ou dans le village et sur lesquels vous savez que vous pouvez compter quand la saison de la production arrivera.
Ah oui, on a un noyau dur d'anciens, du nougat.
Vous avez évoqué votre matériel. Ce matériel, il est ancien, en partie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Alors c'est assez rigolo parce que c'est un vieux malaxeur qui était un four à bois au démarrage, tourné à la main, donc avec une grosse roue, avec une poignée, et sur lesquels les différentes générations ont apporté des améliorations pour se fatiguer un peu moins. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'une grosse roue tournée à la main, il y a eu une installation d'un moteur à essence, de bateaux, de pointus marseillais, bateaux de pêche, avec un ensemble de poulies, de courroies qui faisaient tourner des choses. Donc on voit, et puis maintenant on est sur des moteurs électriques, c'est plus un four à bois, c'est un brûleur à gaz. Donc cette machine-là, on la voit, on voit son âge, et on voit aussi les différentes étapes où on a essayé de la moderniser sans la changer, tout en ayant un travail un peu plus facile. J'aime bien ça, c'est rigolo.
Vous avez conservé des chaudrons en cuivre alors?
Alors, les chaudrons en cuivre s'usent, donc on est obligé de les faire refaire tous les 50 ans. Hein. Ça ne s'use pas si vite que ça. Mais c'est vrai qu'on garde les anciens, on les accroche au mur, parce que souvent une génération a eu son chaudron. Donc au mur, vous avez 2 gros chaudrons, il y a celui de mon père, de mon grand-père, et moi j'ai hérité d'un chaudron neuf il y a 4-5 ans, donc je pense que je vais le durer pour rien.
Mais toujours en cuivre, parce que ça reste le métal le plus favorable à la cuisson.
Oui, c'est le métal le plus intéressant pour la cuisson du sucre, donc, parce qu'il répartit bien la chaleur.
Ça qu'on utilise aussi pour les confitures.
Voilà.
Alors, chers auditeurs, je suis désespéré parce que nous allons être obligés de quitter M. Fouque. J'aurais voulu vous parler aussi de sa merveilleuse boutique ici à Signes où il détaille son nougat avec l'aide de son épouse, je pense,
oui.
Et qui est restée aussi dans son jus. C'est une boutique où on a l'impression que le temps s'est arrêté à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et je vous en recommande vivement la visite si vous passez par là. Monsieur Fouque, merci beaucoup. Je ne vous ai même pas demandé si vous aviez d'autres passions, dehors de la passion du nougat et de la passion d'être provençal et de bien faire votre travail. Merci beaucoup d'avoir appris toutes ces choses à nos auditeurs.
Merci à vous. Au revoir et merci.
C'était Tranche de vie. une émission proposée par Jean-François.